Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Valérie Petit, députée du Nord, membre d'Agir et d'Horizon. Bonsoir.
Bonsoir Loïc.
Alors Valérie Petit, les députés ont adopté récemment une résolution que vous avez portée, invitant le gouvernement à reconnaître, prévenir et lutter contre le risque d'épuisement administratif des Français. Vous parlez même de burn-out. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez rédigé cette résolution ?
Oui, eh bien, écoutez, c'est une façon un petit peu différente de lancer le débat sur la simplification urgente hein, de l'administration et de nos relations avec l'administration. En fait, le burn-out administratif, c'est d'abord des chiffres et puis bien sûr, ce sont des histoires. Les chiffres, c'est un Français sur cinq qui aujourd'hui trouve que sa relation avec l'administration est trop complexe. Et puis, c'est un sur quatre, ça fait quand même 20 millions de Françaises et de Français qui disent éprouver des difficultés dans leur relation avec l'administration. Donc ça, ce sont les chiffres. Et puis, vous avez les histoires. Toutes les histoires que me racontent les Français, que je reçois toutes les semaines à ma permanence parlementaire, de comment ils n'arrivent pas à récupérer leur permis de conduire, ce qui peut parfois les rendre fous quand ils cherchent un emploi et qu'ils ont besoin de cette attestation, comment ils passent des années à remplir inlassablement les mêmes dossiers MDPH, comment ils se sentent parfois stigmatisés, soupçonnés quand ils font une demande de RSA. Et puis bien sûr, il y a toutes les histoires qu'on vit nous. Moi, j'ai eu plein d'histoires, comme tous les Français. On m'a inventé un troisième enfant, perdu mon numéro fiscal. Ça peut prêter à sourire, mais en réalité, ça peut parfois vous rendre malade de stress, d'anxiété. Ça peut même vous donner une véritable phobie administrative. Et c'est pour ça que j'ai voulu alerter, faire connaître ces histoires. Et puis, plutôt que de faire comme tout le monde et de toujours citer, vous savez, la phrase de Pompidou qui disait en 1966 « Cessez d'emmerder les Français, il y a trop de lois et de règlements dans ce pays », tout le monde depuis des années dit « il faut simplifier, il faut simplifier », cite Pompidou, mais ça n'avance pas assez vite dans le quotidien des Français. Moi, j'ai voulu avoir une démarche qui soit un petit peu un électrochoc et de donner finalement une forme de nouveau droit aux usagers pour faire reconnaître que parfois, ça va trop loin, on les épuise et qu'ils sont en droit d'attendre une relation beaucoup plus sereine et bienveillante de la part de leurs services publics.
La crise sanitaire a accéléré la dématérialisation des démarches de la vie courante, ce qui a accentué finalement l'exclusion des personnes éloignées du numérique. Comment lutter contre cette fracture numérique ?
Écoutez, moi je pense que la fracture numérique, c'est un sujet qui vient en second. Le premier sujet, c'est comment les Français peuvent avoir des services publics efficaces, simples et humains. Ils veulent que les démarches soient compréhensibles, et ça c'est le but, c'est le premier chantier, c'est simplifier, c'est ne dire qu'une fois une information, pas tout le temps répéter, c'est avoir des formulaires compréhensibles, donc ça c'est le premier chantier. Et le deuxième chantier, c'est humaniser, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un souci, je dois pouvoir tomber sur un humain qui me réponde et qui m'aiguille. Donc le problème, c'est pas la fracture numérique, c'est qu'aujourd'hui, l'administration, elle doit trouver toujours un bon équilibre entre simplification, et parfois la simplification, ça passe par la dématérialisation, mais en même temps, l'humanisation, avoir tout le temps quelqu'un à qui parler. La fracture numérique, elle vient souvent du déséquilibre en fait qu'il y a entre les deux. Puis après, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont prises. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avec Emmaüs Connect, avec des bus qui passent pour, entre guillemets, coacher les habitants pour pouvoir se connecter, pour pouvoir accéder à des services publics. Donc, c'est en train de bouger. Il y a une prise de conscience. Je crois qu'on ne peut pas aller trop loin dans la dématérialisation, mais surtout trop loin dans la déshumanisation. Aujourd'hui, la ministre Amélie de Montchalin, elle est très consciente de ça, hein, de l'importance de la relation, de la qualité de la relation, de l'humanisation de la relation entre l'usager et l'administration. Donc, ça va dans le bon sens, mais c'est vrai qu'il faut être très vigilant pour que les Français ne se sentent pas exclus de ce qui leur appartient. Ce sont leurs services publics.
Valérie Petit, un collectif d'élus de la majorité, dénonce le manque de place accordée aux femmes autour d'Emmanuel Macron, que vous soutenez, c'est le président que vous soutenez. Oui. Un collectif, donc, s'est baptisé les Simones, comme Simone Veil ou Simone de Beauvoir, vous en faites partie. Cette question de la place des femmes, elle est centrale pour vous à 4 mois de la présidentielle?
Alors d'abord, je vais me permettre de dire que la question des femmes, elle est toujours centrale. Les femmes sont 52% des Français. Et puis en politique, vous savez, on a quand même écrit dans l'article 1er de la Constitution que le rôle de la loi, c'est aussi de favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités. Donc, on n'a pas attendu la présidentielle pour poser la question des femmes. Après, on est face, nous, dans la majorité, à un léger paradoxe. On n'a jamais autant porté la cause des femmes que sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il y a évidemment les engagements qui ont été pris par le président sur la grande cause du quinquennat, mais il y a surtout les chiffres qui montrent que, par exemple, à l'Assemblée nationale, presque la moitié de la majorité, ce sont des femmes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, il y a une nouvelle un peu moins bonne, c'est qu'en revanche, quand on regarde les instances de décision, de direction politique, les présidences des groupes politiques, les présidences du Sénat, de l'Assemblée, les présidences des partis, il n'y a que des hommes. Hein, il n'y a même pas une seule femme. Donc, en réalité, nous, ce que l'on constate, c'est que le plafond de verre, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de femmes qui pourraient être disponibles, qui ont du talent pour prendre des responsabilités, et le nombre de femmes qui sont réellement en responsabilité, a plutôt tendance à reculer. Donc, nous, on a voulu... vraiment dans la volonté de servir le président de la République, on a dit ok, le président avait décrété la cause des femmes, grande cause du quinquennat, l'intendance entre guillemets, j'ai envie de dire, n'a pas vraiment suivi. Donc nous, on fait un gentil rappel à l'ordre de l'intendance en leur disant, regardez, et c'est le rôle des Simones, il y a plein de femmes de talent dans la majorité, vous n'avez pas dû bien voir, eh bien, qu'à cela ne tienne, on va vous les montrer. Donc nous, on est assez optimistes que ça provoque un peu un électrochoc dans le cercle des dirigeants autour du président, parce qu'encore une fois, ça n'est pas la volonté du président, évidemment, que d'avoir que des hommes. Et pour ça, moi, j'ai proposé une proposition très simple. Vous savez, il y a 10 ans tout pile, on a voté une excellente loi à l'Assemblée qui s'appelait la loi Copé-Zimmermann, qui instaurait la répartition, la représentation équilibrée des deux sexes dans les conseils d'administration des entreprises. Dit autrement, il ne fallait pas qu'il y ait plus de 60% de personnes hommes ou femmes. Donc on avait toujours du 60-40. Ben moi, je propose d'appliquer cette excellente loi aux instances politiques et aux partis politiques. En 10 ans, vous savez, les entreprises ont beaucoup changé. Les directions d'entreprise se sont féminisées grâce à cette loi Copé-Zimmermann. Faisons la loi Copé-Zimmermann pour les partis politiques et pour les institutions. Et vous verrez qu'on aura assez rapidement, compte tenu du vivier de femmes que nous avons, rattraper notre retard.
Est-ce qu'on peut imaginer aussi un mécanisme qui permettrait une vraie parité à l'Assemblée nationale, comme cela se passe dans les conseils départementaux, même si, vous l'avez sûrement noté, dans les conseils départementaux, les présidents sont souvent des hommes?
Oui, alors écoutez, moi j'ai donné ma proposition hein, d'appliquer le principe du 60-40 aux instances et notamment aux partis politiques parce que ce sont eux qui font les investitures. Donc à partir du moment où on met de la mixité, j'insiste, hein, pas de la parité, de la mixité dans les instances de décision, je pense qu'il va y avoir un effet de féminisation ensuite dans les investitures. Après, moi je suis aussi pour recommander qu'on prenne l'habitude, et je pense que c'est une bonne habitude qui a été prise au niveau départemental, de binômer et de partager le pouvoir dans les postes de président. Ça me semble être une bonne chose. Il y a évidemment aussi des initiatives, notamment par ma collègue du Modem, Élodie Jacquier, pour mettre plus de parité dans les EPCI, qui sont les grandes oubliées de la loi sur la parité. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, mais il faut accélérer et surtout il ne faut rien lâcher.
On peut rappeler ce que sont les EPCI?
Oui, pardon, ce sont les communautés de communes, donc les ensembles de communes.
Alors, vous êtes député Agir du Nord et vous avez rejoint le nouveau parti créé par Édouard Philippe, Horizon. Pour quelles raisons et quel sera le rôle de ce parti dans l'élection présidentielle et j'imagine aux prochaines législatives?
Oui, bah écoutez, moi j'étais effectivement une des premières députées à rejoindre Horizon. Je l'ai rejoint comme beaucoup à la fois pour l'homme hein, qui est Édouard Philippe, qui est pour moi quelqu'un qui a la stature d'un chef d'État, dont j'ai pu apprécier à la fois les idées, mais surtout, j'ai envie de dire, l'art de gouverner lorsqu'il était Premier ministre. Moi, C'est réellement pour ça que je le soutiens, c'est sa façon d'exercer le pouvoir. Et puis j'ai aussi adhéré à un projet, vous savez, Horizon, le projet d'Horizon, d'abord c'est un projet exigeant sur le plan intellectuel, il s'agit de produire des idées pour la France, à un moment où le débat est extrêmement pauvre, je trouve, du point de vue des propositions. Donc pour moi qui suis quelqu'un qui est très attaché aux idées, l'idée du voir loin pour faire bien, d'avoir une vision et des idées fortes pour la France, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Horizon. Et puis l'objectif d'Horizon, c'est évidemment de reconstituer ce qui pour moi est ma famille politique, c'est-à-dire la droite modérée, libérale et républicaine. Elle est aujourd'hui un petit peu éparpillée, certains sont dans la majorité derrière Emmanuel Macron, d'autres sont encore chez LR, d'autres sont à l'UDI. L'idée, c'est de rassembler tous ces élus et tous ces sympathisants, de redonner un petit peu de lustre à cette famille politique qui, en plus, je le pense, est le barissant de la vie politique, et de se donner un chef, une direction. Après, très concrètement, politiquement, le but pour nous, moi, le but, c'est, comme l'a dit Édouard Philippe, c'est de faire réélire Emmanuel Macron parce que je pense qu'il est le meilleur président pour la France, et aussi, évidemment, de constituer à l'occasion des législatives un premier groupe parlementaire Horizon pour porter cette sensibilité de la droite modérée derrière le président de la République.
Et d'ici l'élection présidentielle, le parti Horizon va contribuer à la campagne d'Emmanuel Macron, nourrir le projet ?
Oui, bien sûr. Alors tout ça a déjà été acté. Vous le savez, on a créé, on a donné un nom à notre maison commune, hein, Ensemble Citoyens, qui réunit tous les partis qui soutiennent Emmanuel Macron, hein, la REM, le MoDem, Territoire de Progrès en commun, et bien sûr Horizon. Donc nous allons travailler tous ensemble dans des instances communes pour coproduire un certain nombre de propositions qui seront portées par le président de la République.
Alors le pass sanitaire, Valérie Petit, va devenir normalement un pass vaccinal. Pour vous, il faudrait aller plus loin et rendre le vaccin obligatoire ?
Écoutez, moi depuis toujours, hein, depuis le mois de juin déjà, j'avais dit que j'étais favorable à l'obligation vaccinale. Donc moi je pense que le pass vaccinal est une bonne chose parce qu'il est une étape vers l'obligation vaccinale. Alors on m'a dit, mais enfin Valérie, comment tu peux défendre l'obligation l'obligation vaccinale alors que tu es libérale et que tu es attachée aux libertés ? Moi ce que je veux rappeler ici très simplement, c'est que, c'est dit dans la Déclaration des droits de l'homme, hein, article 4 de mémoire, la liberté, elle s'arrête au moment où on commence à nuire à autrui. Hein, la liberté, c'est pas faire tout ce qu'on veut, c'est faire tout ce qu'on veut dans la limite de la nuisance portée à autrui. Aujourd'hui, on a un virus qui est encore plus contagieux, hein, 10 fois plus contagieux que le premier variant que nous avons eu en 2020. Donc il y a une menace évidente pour la santé des Français. Et cette menace, si vous voulez, elle n'est pas simplement les gens qui risquent de mourir et d'aller en réanimation, c'est tous les gens malades. Vous savez, moi je suis Covid long. Ça fait presque un an et demi que je suis malade du Covid. Ça me gâche la vie. Mais sincèrement, je ne respire plus correctement, je ne peux plus faire de sport, j'ai perdu le goût et l'odorat pendant plus d'un an. Et encore, je ne suis pas la plus malade de tous les malades de la Covid. Donc ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment important de se faire vacciner, qu'on n'est plus dans une question de liberté, mais une question de santé, que ce n'est pas que la question des places en réanimation, c'est la question de la santé de tous les Français. Il y a des millions de Français qui sont malades du Covid. Certes, ils ne vont pas mourir, mais leur vie est gâchée. Et c'est pour ça que moi, je défends l'obligation vaccinale pour une question de santé. Je défends y compris, et d'ailleurs, mes enfants vont se faire vacciner, qui ont 5 et 9 ans, mi-janvier. Donc vraiment, j'incite tout le monde à le faire, et c'est pour ça que je défends l'obligation vaccinale. Donc j'ai salué d'ailleurs les propos d'Olivier Véran, qui l'a dit, le pass vaccinal, c'est un pas vers l'obligation vaccinale. Et moi, sincèrement, je m'en réjouis dans l'intérêt de la santé de nos concitoyens.
Il faut aussi un pass vaccinal dans les entreprises, avec un patron qui serait obligé de contrôler le pass sanitaire de ses salariés.
Alors là, pour le coup, hein, Gabriel Attal a bien rappelé les choses. Pour l'instant, le pass vaccinal, il va s'appliquer à périmètre constant. Donc, pour l'instant, les entreprises ne sont pas concernées. En revanche, le gouvernement est en train de mener des discussions avec les partenaires sociaux et bien sûr avec les syndicats patronaux pour voir comment on peut faire progresser la vaccination dans les entreprises. Donc, il faut faire un petit peu confiance au dialogue social. Moi, évidemment, je ne suis pas pour que l'entreprise fasse à la place de l'État. Je ne suis pas non plus pour que l'entreprise, entre guillemets, fasse la police. Donc, il faut faire confiance à la négociation. Et je pense qu'on va trouver, une voie moyenne. Mais vous savez, en réalité, il faut quand même rappeler que les Français sont les bons élèves en Europe de la vaccination. On est en train de parler de quelques cas. Il faut accompagner les entreprises dans la gestion de ces cas, qu'elles n'assument pas toute la charge elles-mêmes, parce que en effet, ça n'est pas leur rôle. Il faut quand même rappeler que la grande majorité des Français est pour la vaccination et se fait vacciner.
Certains pays européens ont pris des mesures de restriction. La France, pour l'instant, n'est pas concernée par ces mesures de reconfinement parce que notre taux de vaccination est important.
Oui, alors en fait, je pense que le pari du président, il commence à être gagné quand il avait décidé la mise en place du pass sanitaire. Le président a toujours réussi à trouver une voie entre les restrictions de liberté qu'il fallait faire pour des raisons évidentes de santé et en même temps continuer de faire vivre l'économie et aussi la vie sociale. On a toujours réussi à trouver une ligne de crête pour ne pas recourir à des mesures trop brutales. Et à côté de ça, on a su convaincre les Français d'être responsables et de se faire vacciner. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que on en tire les bénéfices, c'est-à-dire qu'on tient notre ligne de crête, on a été peut-être plus contraignant à un moment donné, mais aujourd'hui, ça nous permet de conserver plus de liberté que certains de nos voisins, comme aux Pays-Bas notamment.
Valérie Petit, lors de son interview sur TF1, Emmanuel Macron a tenté de dire où allait le pays. Il a évoqué l'horizon 2030. Il a notamment déclaré « Nous sommes un peuple qui va continuer d'avancer. Nous sommes le pays de tous les possibles. » Pourquoi, selon vous, faut-il qu'Emmanuel Macron se représente pour un nouveau quinquennat ?
Écoutez, moi j'ai beaucoup apprécié ce moment. Pourquoi ? Bah, parce qu'il m'a rendu un peu nostalgique en fait. Ça m'a rappelé finalement ce que portait le président de la République en 2017, c'est-à-dire un discours de progrès qui se projette littéralement vers l'avant et surtout qui fait confiance aux Français, qui est relativement optimiste dans leur capacité à se prendre en main, à avancer vers le meilleur d'eux-mêmes. Je trouve que dans un contexte où le pays souffre à cause de la Covid, où nous avons des oiseaux de malheur, des émours et autres qui misent sur le pire de nous-mêmes, sur le retour en arrière. Moi, j'ai apprécié réellement ce moment d'éloge du progrès et de la confiance dans l'individu. Je crois que notre pays va se sortir de cette crise, mais il doit s'en sortir avec de l'espoir, de la confiance et se projeter vers l'avant, car il y a plein d'autres défis économiques, défis climatiques, défis migratoires qui nous attendent. On doit les prendre à bras-le-corps. Et moi, j'ai vraiment apprécié ce discours de progrès. C'est pour ça que j'ai soutenu et c'est pour ça que je soutiens Emmanuel Macron. Il n'y a que lui qui porte cette espérance aujourd'hui.
Valérie Petit, à titre personnel, comment souhaitez-vous enrichir le programme d'Emmanuel Macron ?
Écoutez, moi j'ai toujours été quelqu'un qui proposait beaucoup d'idées, c'est un peu pour ça que l'on me connaît, mais celle que je veux promouvoir moi pendant la campagne, c'est vraiment, je pense, la réforme que nous n'avons pas encore achevée avec le président de la République, c'est la réforme de l'État et la simplification de l'administration. Donc que ce soit avec ma proposition de revenu universel, qui est une grande mesure à la fois de solidarité mais aussi de simplification du modèle socio-fiscal, que ce soit avec mon burn-out administratif, je vais vraiment essayer de porter ce combat pour simplifier le quotidien et réformer l'État.
Merci Valérie Petit. Je rappelle que vous êtes députée du Nord, membre d'Agir et d'Horizon. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.